On va parler d'un autre thème dans l'actualité. On va parler aussi ce soir de l'affaire Kenji Girac. Le chanteur blessé par balle au thorax hier matin à Biscarrosse dans les Landes. Les circonstances restent floues. Même si une arme a bien été retrouvée à proximité dans un buisson sur indication de la famille, elle est en cours d'analyse à l'heure où on parle. Et ce soir, on a de nouvelles informations sur les premières remontées des auditions. On va en parler avec nos spécialistes sur ce plateau. Mais juste avant, on va aller au CHU de Pessac. Retrouver Edgar Becquet. Les nouvelles sont plutôt positives, Edgar, sur l'état de santé de Kenji Girac ce soir.
Oui, Julie, son manager a donné aujourd'hui des nouvelles rassurantes. Il explique que Kenji va mieux, va bien et qu'il est même tiré d'affaire. Ça, ce sont les mots du manager de Kenji Girac. Le chanteur, lui, est toujours à l'hôpital du Haut-l'Évêque ici à Pessac où l'on se trouve ce soir. C'est à une vingtaine de minutes en voiture du centre-ville de Bordeaux. Un hôpital dont la sécurité a été renforcée aujourd'hui. On a vu notamment dans la journée des agents de sécurité à l'entrée du site, à l'entrée de l'hôpital. Donc Kenji, lui, a été opéré hier soir. Vous l'avez dit, il a été opéré hors réanimation, puisque son état de santé était compatible avec une hospitalisation hors service de réanimation. Une opération donc au thorax, puisqu'on le rappelle, il a été touché au niveau de la cage thoracique dans la nuit de dimanche à lundi. Donc Kenji est toujours à l'hôpital ce soir. Il n'a pas encore été auditionné par les enquêteurs. Une audition qui va pouvoir se faire dans les prochains jours, demain ou après-demain. On ne sait pas encore. Ça va dépendre vraiment de l'état de santé du chanteur.
Beaucoup de proches qui sont venus lui rendre visite aujourd'hui, Edgar.
Oui, beaucoup de proches, son manager donc, mais aussi sa famille. On sait que sa maman est à son chevet depuis hier. Sa maman donc, ses cousins, ses oncles. On a pu discuter aujourd'hui avec plusieurs de ses oncles qui sont venus lui rendre visite, qui sont venus lui apporter du soutien. On a vu également des membres de la communauté des gens du voyage, des gens qui connaissent de loin Kenji, mais qui ont voulu être absolument ici pour apporter du soutien au chanteur. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, on a vu également de nombreux anonymes, de nombreuses personnes qui vivent dans le coin, qui savent que Kenji est hospitalisé ici, pour qui c'était important de venir apporter du soutien au chanteur. On a croisé énormément de personnes aujourd'hui avec Nils Olsen et Tanguy Tricouart qui m'accompagnent, des personnes qui s'arrêtent près de nous, qui savent qu'on travaille pour BFM TV et qui viennent nous demander comment va Kenji, est-ce qu'il va mieux, est-ce qu'il est sorti de l'hôpital. Donc beaucoup de personnes qui s'interrogent, et puis également des marques de soutien, des marques d'affection. Tout à l'heure, là, on se trouve à quelques mètres seulement d'une départementale. Il y a beaucoup de circulation ici au niveau de Pessac et on entend parfois des personnes qui passent en voiture et qui crient « Kenji, on t'aime, Kenji, on te soutient ». Donc, de nombreuses marques d'affection et des marques de soutien envers le chanteur hospitalisé donc depuis hier.
Merci beaucoup Edgar Becquet. Nous en rejoint sur le plateau Laurent Valdiguier, journaliste d'investigation au magazine Marianne. Bonsoir à vous Laurent. Maxime Brandstetter, de retour sur ce plateau, journaliste police-justice BFM TV. Rebonsoir Maxime. Et on accueille également Yves Goletti, président de la Chambre syndicale nationale des armuriers. On va avoir besoin de vous parce qu'on a beaucoup de questions, évidemment, sur cette arme qui est au cœur de l'enquête. Mais juste avant, les dernières informations dont on dispose, parce que l'enquête avance, on a les premières remontées, Maxime, des auditions des proches de Kenji Girac.
Oui, exactement. On a les remontées des auditions et aussi quelques retours d'expertise et de constatation, mais on est loin de tous les avoir. Et d'après ce qu'on sait, à la fois les auditions et les toutes premières remontées d'expertise, pour l'instant, ne contredisent pas la version de Kenji Girac. On le rappelle, n'a pas été auditionné, mais a glissé aux enquêteurs qu'il s'était tiré dessus par accident lui-même en manipulant son arme.
Alors, encore auditionné parce que pas tout à fait en état pour
aujourd'hui l'instant. Son état ne l'a pas permis. Hier, le procureur disait qu'il sera auditionné dès que son état le permettrait. Visiblement, c'était pas aujourd'hui, peut-être demain, mais il a pu livrer sa première version aux enquêteurs. Donc, vous l'avez dit, on a quelques remontées sur les auditions de ses proches. On sait qu'il y a eu quelques personnes, on ne sait pas exactement combien, qui ont été auditionnées, des témoins. On sait aussi qu'il y a des membres de sa famille, ses oncles, tantes, mais il y a aussi sa femme qui a été auditionnée. Et d'après ce qu'on sait, il semble se dessiner un récit de la soirée où on évoque Kenji Girac qui rentre d'une fête. Alors on évoque une soirée de casino vers 2h40. Il rentre sur cette fameuse aire où était installée la communauté des gens du voyage, où il dormait. Visiblement, sa femme est à un moment avec lui et lui demande de sortir écouter sa musique dehors dans sa voiture, sa Porsche en l'occurrence. Et D'après ses auditions, sa femme ne l'a plus en vue, elle le perd de vue. Et à ce moment-là, elle entend un tir, et c'est là qu'elle revient vers lui et qu'elle aperçoit que Kenji Girac est blessé. Voilà, c'est les premières versions des auditions. Il y a quelques expertises, on vous l'a dit, qui pour l'instant ne contredisent pas du tout cette hypothèse de voilà, il manipule le pistolet, il se blesse tout seul. Mais des expertises, il y en a encore beaucoup qui doivent remonter. Et les auditions, on a des sources qui nous appellent à la prudence et qui rappelant qu'au début c'était un petit peu confus. Là, on a des versions. Tout ça va devoir être corroboré par l'enquête, confronté à certains éléments avant d'être vraiment certain.
En tout cas, la piste de l'accident n'est pas écartée. C'est fait partie des pistes absolument probables, celle qui est mise en avant par Kenji Girac lui-même.
Il peut tout à fait avoir acheté une vieille pétoire dans une brocante dans l'après-midi, dans les Landes. C'est la région du mur de l'Atlantique. Il a pu tout à fait avoir une arme en balade. C'est possible. Mm-hmm. Et c'est possible qu'une vieille pétoire tombée à 2h30, à 5h du matin. Il a passé la soirée avant d'aller au casino dans deux bistrots différents de la région. Mm-hmm. Il était vraisemblablement un peu alcoolisé, on dit des témoins.
Même si on n'a pas encore les résultats des analyses toxicologiques.
Non, il y a des analyses toxicologiques, effectivement, qui le diront.
Bon, mais c'est parfaitement possible. Alors, c'est aux yeux des spécialistes, en tout cas aux yeux du procureur, c'est pas la seule possibilité, puisqu'il a ouvert une information pour tentative d'homicide volontaire. Tous les mots ont leur importance. Ça veut dire que le procureur n'exclut pas que quelqu'un lui ait tiré dessus dans l'intention de le tuer.
Est-ce que ça veut dire d'ailleurs, parce que tentative d'homicide volontaire, ça implique l'intervention d'un tiers ?
Nécessairement.
Et donc, ça contredirait la version donnée par Kenji Girac. Est-ce que ça veut dire qu'on ne le...
Ça veut dire que le parquet l'envisage. Ça veut dire que le parquet envisage toutes les hypothèses dans le spectre très large de l'accident domestique, comme disait la police pour qualifier les accidents à la maison, ou l'homicide, la tentative d'homicide volontaire de quelqu'un qui a voulu le tuer pas très loin, et parce que c'est la seule chose, Julie, dont on soit absolument certain, c'est que c'est un miraculé. Il peut refaire le tir 100 fois, peut-être que 99 fois, il mourra. C'est une balle de 11,43, c'est un gros calibre. On a un expert sur le plateau, il va vous l'expliquer. C'est un gros calibre dans le thorax qui sort et qui rentre. On peut 10 fois y laisser la vie.
Alors, on va revenir évidemment sur cette arme qui est au cœur de l'enquête avec vous, notre spécialiste sur le plateau. Mais juste avant, on est avec Joseph Gauthier, un ami de Kenji Girac. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez beaucoup chanté avec Kenji Girac dans des fêtes privées et à la télévision. Vous avez de ses nouvelles ?
Non, malheureusement, non, je n'ai pas encore de ces nouvelles. Je lui ai envoyé un message dimanche, je crois, ou lundi matin, quand j'ai appris la nouvelle. Je lui ai envoyé un message et qu'il ne m'a toujours pas répondu et j'espère qu'il me répondra. Et s'il me répond, c'est que ça veut dire que c'est bon signe. Bon, déjà, on est dans de bonnes voies et je pense que le principal, c'est que Kenji, notre Kenji national, aille mieux.
Comment vous avez réagi en apprenant la nouvelle ? Je veux dire, c'est pas anodin quand même. On parle d'une blessure par balle, une balle qui traverse le thorax. Comment vous, qui le connaissez bien, avez réagi ?
Ah ben déjà, ça m'a énormément surpris de savoir que Kenji a été blessé. Le connaissant depuis de nombreuses années, je sais que c'est une personne qui n'aime pas les choses malsaines, on va dire. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, donc ça, il est très important de le dire aussi. Et en plus, le connaissant, c'est vrai que chez nous dans la communauté, on adore tout ce qui est chasse, pêche, etc. Moi, sincèrement, à l'heure d'aujourd'hui, je serais incapable de vous donner plus d'informations parce que je suis exactement dans le même cas que vous.
Mais vous n'aviez pas connaissance d'un amour particulier de Kenji Girac pour les armes, s'il collectionnait des armes
Je pense que tous, on collectionne tous plus ou moins des armes et on aime bien tout ce qui est la pêche, tout ce qui touche les armes, on a toujours aimé ça. Mais c'est pas pour autant que Kenji manipule les armes. Je pense qu'on a tous manipulé des armes un jour dans notre vie. Et malheureusement, voilà ce qui s'est passé.
Non,
moi jamais personnellement.
Non, mais c'est dans la communauté.
C'est pas si récurrent, généralement les armes.
Je parle dans la communauté, on aime bien tout ce qui est chasse et pêche. Mmh. Je l'aurais dit encore une fois, et on est amené à manœuvrer, enfin à toucher des armes. Mmh.
Alors, je voulais qu'on écoute Nino Baliardo. Il était tout à l'heure notre invité, cofondateur des Gypsy Kings et lui aussi ami de Kenji Girac. Intéressant ce qu'il dit sur sa vision aussi de la justice dans cette communauté gitane. On l'écoute.
Nous, la loi des gitans, on se la règle, nous, entre hommes. Nous tapons sur la main, banco, c'est fait, c'est là, c'est fini. On donne notre parole, nous, on a de la parole, c'est tout. On marche à la parole chez nous. Nous, on ne signe pas des contrats. Non. C'est la parole en toute chose.
Mais donc, c'est plus fort que la justice française ?
Pas plus fort, mais c'est autre chose. C'est le bien. Ce n'est pas en position de force que je parle, mais pas du tout. C'est un respect. C'est des traditions. On doit écouter les cheveux blancs, toujours.
Vous êtes d'accord avec ça ?
Tout à fait. Il a bien retranscrit ce qu'est la mentalité des gens du voyage et la mentalité gitane. C'est vrai que énormément de choses se passent en huis clos et ça reste entre nous. Après, bien sûr, qu'il y a énormément de respect par rapport aux anciens. Et quand une personne qui a les cheveux blancs, notamment, vient et nous dit, vient régler les affaires parce que les choses se règlent tout le temps.
Vous parlez d'un huis clos, on parle effectivement d'une communauté très soudée, mais il va y avoir des auditions. D'ailleurs, ça a commencé, les proches qui sont auditionnés, Kenji Girac qui va devoir lui répondre aussi aux questions de la police. Il y aura quand même... ils parleront, Kenji Girac parlera, malgré ce huis clos.
Mais c'est bien sûr que Kenji parlera. Je pense que il a aucune raison de dire n'importe quoi. Donc je pense que il parlera et après on laissera faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Moi personnellement, j'ai pas d'idée. Ma principale préoccupation, c'est l'état de santé de Kenji, qui est quand même quelqu'un qu'on apprécie énormément dans la communauté. Et moi personnellement, parce que je le connais depuis de nombreuses années. Et voilà, j'espère que ça va aller pour le mieux.
Vous le connaissez depuis l'âge de 12 ans, c'est devenu une superstar en France, Kenji Girac. Comment il a géré quand même cette notoriété ? On dit qu'il est resté fidèle à ce qu'il a toujours été. D'ailleurs, là, la preuve, il était dans sa caravane à Biscarrosse. Mais est-ce que ça n'a pas été dur ? Est-ce qu'il n'a pas quand même subi des pressions de la part de certaines personnes aussi dans la communauté ? Comment il a géré ça ?
Il a très bien géré ça. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Il a vraiment la tête sur ses épaules. Moi, je le connais depuis l'âge de 12 ans. La première fois que je l'ai vu, il avait 12 ans. Après, bon, on s'est perdu de vue et je l'ai revu sur le plateau de The Voice, où j'étais très heureux et je savais déjà qu'il avait une voix exceptionnelle. Donc, on s'est rencontrés dans des fêtes privées, dans des plateaux télé, et on a toujours gardé un très très bon rapport, lui et moi. Vraiment, Kenji est quelqu'un d'adorable et quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Je le redis encore une fois, c'est pas un foufou. Et il a toujours été égal à lui-même. Et je pense que c'est par rapport à ça que les gens l'adorent.
Merci, merci beaucoup Joseph Gauthier d'avoir répondu à nos questions. Maxime Brandstetter, en attendant l'enquête avance, on parlait évidemment de cette arme qui a été retrouvée sous indication de la famille dans un buisson à proximité du drame. Le chargeur a été retrouvé aujourd'hui, c'est ça ?
Oui, et ça c'est une nouveauté parce que hier on vous disait l'arme, après avoir disparu, a été retrouvée, vous le dites grâce aux indications de la famille. Mais il manquait le chargeur. Hier, on vous expliquait à la même heure, on vous dit voilà, le chargeur n'était pas dans l'arme ni à proximité, donc les gendarmes le cherchent toujours. Et bien aujourd'hui, on apprend que le chargeur a aussi été retrouvé, aussi sur les indications de la famille. Et dans ce chargeur, il manque une cartouche.
Et est-ce qu'on sait si c'était au même endroit à peu près
Il n'a pas été retrouvé au même endroit que l'arme, mais il a été retrouvé ailleurs.
Il a été retrouvé. Quelle est votre analyse là-dessus à vous, l'armurier ? Déjà, qu'est-ce que ça change de retrouver le chargeur ? Expliquez-nous un peu.
C'est assez important parce que ça prouve qu'il y avait d'autres munitions. Est-ce qu'il a été retiré ? On pensait au départ que comme il n'y avait pas le chargeur, il pouvait penser que l'arme était vide. Donc ça donne d'autres indications. Il faut être toujours très prudent à l'heure actuelle parce qu'on n'a pas la certitude que c'est bien la bonne arme pour l'instant. Tant qu'il n'y a pas eu des études balistiques, on ne sait pas si c'est exactement cette arme-là qui a été... qui a causé l'accident, ou exactement. Donc pour l'instant, il faut être prudent sur tout ce qu'on pourra dire, mais toutes les études qu'on pourra faire, balistiques, ça, vont pouvoir lever tous ces doutes.
On parle donc d'un pistolet automatique de calibre 11.
Alors c'est 11.43, c'est donc une mesure en millimètres d'un calibre américain qui est le 45. Mmh. Donc en gros, on divise par 4 parce que c'est une mesure américaine. Et on arrive au 11.43. C'est un gros calibre. C'est le pistolet utilisé par l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était une arme qui était très courante et qui est très prisée par les collectionneurs et par les tireurs sportifs.
J'ai entendu dire, et dites-moi d'ailleurs si c'est donc vrai ou pas, que avec ce pistolet-là, lorsqu'on tire une balle sur quelqu'un, la balle a priori ne ressort pas. Est-ce
exactement,
que c'est le cas ?
Oui, c'était l'effet du 45, c'est justement qu'elle restait dans le corps, elle traversait pas parce que c'est un gros calibre relativement lent, donc normalement elle ne ressort pas. Maintenant, là, elle est ressortie. Donc,
on ne sait pas forcément si c'est l'arme du...
On ne sait pas si l'arme, mais ça dépend si complètement, si l'arme touche un os, qu'est-ce qu'elle traverse et tout. Toutes les études balistiques vont pouvoir déterminer tous ces éléments.
C'est l'arme qui va permettre de comprendre ce qui s'est passé ? C'est l'arme qui va tout révéler ?
Normalement, oui, si la scène de crime a été si la scène d'accident a été un peu gelée... ou de crime, enfin là on part sur un accident, si la scène de l'accident a été un peu gelée, les mains du tireur, les mains de Kenji vont pouvoir parler, on va voir s'il y a de la poudre sur les vêtements, si les vêtements ont été brûlés, ça veut dire que le tir a été très près. Toutes ces indications là les laboratoires de police et de gendarmerie vont pouvoir lever tous les doutes.
Laurent Valdiguier, analyse, l'analyse qui est en cours.
Les experts disent que c'est le B.A.B.A. de la balistique, de voir la distance et l'angle. Mmh. La distance du tir, ça va permettre de dire si c'était à bout touchant ou pas, ou si c'était à plus de 50 cm. Ça, c'est les résidus de tir qu'on va retrouver sur les vêtements de Kenji ou sur sa peau. Et ensuite, l'angle. L'angle, ça, c'est un mot un peu barbare, c'est la balistique terminale. La balistique terminale, ça raconte ce que fait une balle quand elle pénètre quelque chose, en l'occurrence un corps humain. Et là, ça va, surtout si on lui a fait un scanner, ce qui est vraisemblable vu l'opération qu'il a dû subir, ça va permettre de regarder le comportement de la balle dans son thorax pour en ressortir dans le dos, ce qui est quand même assez rare puisque c'est pas l'objet des balles de 11.43. C'est fait pour rester dans votre corps et faire un maximum de dégâts pour vous arrêter, justement. C'est pour ça que c'est un miracle, et ça, tous les experts le disent.
Avec un simple laser, vous voyez exactement la trajectoire, la pénétration, l'angle de tir et tout. Donc, ils vont normalement tout savoir. C'est un peu plus compliqué si ça ne s'est pas passé dans une caravane, ça s'est passé à l'extérieur. Ce n'est pas comme dans une maison où on ferme tout.
Parce qu'on ne sait pas encore où ça s'est passé.
Et tout ça, ça dira si c'est possible ou non que le coup soit parti avec lui tout seul. Si le coup est parti avec lui tout seul et que tout l'entourage dit qu'il était tout seul, on n'était pas là et qu'il n'y avait personne, et ben la justice dira c'est vraisemblablement un accident et c'est ce qui s'est passé. Et si la balistique dit c'est impossible, parce que l'angle est incompatible avec son bras, si c'est impossible, ça ouvrira le champ d'autres hypothèses.
Et l'autre élément important, c'est aussi de savoir si le coup est parti, qui était présent au moment où le coup est parti. Parce qu'on évoque là des premiers récits, nous, on n'a pas déterminé quelqu'un qui, visiblement, a vu le coup partir et a vu Kenji Girac se tirer dessus. Mais on sait qu'il y a notamment des relevés de poudre qui ont été pris sur différentes personnes, sûrement à différents endroits.
Notamment
sur la compagne. Et selon les endroits où on retrouve de la poudre, ça voudrait dire que les personnes ont été présentes ou pas. Ou peut-être pas, parce que la poudre, malheureusement, ça se transporte aussi. Si des gens lui ont porté assistance, ils peuvent aussi avoir
de
la poudre.
Dans la caravane, ils vont voir si le coup de feu est bien parti dans la caravane.
Ça, on va facilement pouvoir le déterminer avec les résidus de poudre.
Oui.
Il y a aussi un projectile qui s'est baladé, je dis, parce qu'on l'a pas, le projectile.
Le projectile, il est sûrement ressorti.
On ne sait pas, on n'a pas l'information. Peut-être que les gendarmes l'ont, mais...
Si c'est dans la caravane, il y aura un impact. Il a pu transpercer la caravane, ça peut paraître très, très peu probable, mais il doit être quelque part. Si c'est dans la caravane, ils ont de fortes chances de le retrouver, je crois.
Christophe Barbier.
Une question et une leçon. La thèse de l'accident semble la plus probable à suivre, mais... pourquoi le campement s'est vidé? Que 3 ou 4 caravanes partent parce qu'il faut aller à Bordeaux, être auprès du patient, ça je le comprends. Mais plusieurs dizaines de caravanes qui d'un seul coup s'éparpillent de Biscarrosse pour partir on ne sait où.
On parlait de 80 caravanes au départ, voilà. Il en reste quasiment aucune. Elles
voilà, donc ça fait quand même du monde sur les routes. On n'est pas à la fin d'un week-end férié, il n'y a pas de raison. Pourquoi cet éparpillement? Qu'est-ce que ça cache? Est-ce que c'est simplement un trouble général ou est-ce que c'est parce que une partie des gens savent que c'est pas forcément la version officielle qui est la bonne? Ils n'ont pas envie d'être interrogés, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien su, ils s'en vont. Question gratuite, mais enfin quand même, j'ai été surpris de cet éparpillement de ces caravanes. Deuxième chose, une leçon quand même. Faut pas acheter d'armes. C'est un métier sérieux, pardon, monsieur le président, mais acheter une arme, c'est une responsabilité. Faut le faire avec des gens sérieux, comme sont vos armuriers. Mais une arme de ce type n'a rien à faire chez un particulier.
Si les tireurs sportifs,
mais
il y a des règles. Un accident comme ça peut pas arriver chez un tireur sportif. Il y a trois règles évidentes. Vous devez jamais mettre le doigt sur la détente. Vous devez toujours ouvrir l'arme et vérifier avec vos yeux que le canon est vide et toujours diriger le canon vers une zone de sécurité. Si vous respectez ces trois règles, même si le coup part, même si il y aura
pas rien vous arriver.
Voilà, si. Et les tireurs sportifs dans les stands de tir, dès que vous sortez du pas de tir, l'arme est ouverte, il y a un témoin de chambre vide, il y a des règles et des accidents sur des stands de tir. Il n'y en a pratiquement jamais.
C'est l'inverse de ce que nous disait Joseph Gauthier tout à l'heure, c'est-à-dire on aime les armes, on aime bien les avoir, etc. C'est pas ça, avoir une arme. C'est un truc qu'il faut faire la tête froide, être professionnel. Qu'on soit chasseur, membre des forces de l'ordre, tireur sportif ou collectionneur.
Et un pistolet, je vous donne la parole dans un instant, un pistolet automatique, donc je reprends
c'est de
calibre 11-43.
Oui.
Est-ce qu'on peut facilement se tirer dessus accidentellement, en se le retournant?
C'est une très grosse imprudence parce qu'on dirige jamais un canon vers soi. Enfin, c'est
un cran d'arrêt.
Il y a une sécurité. Il y a une sécurité, une pédale de sécurité. Donc c'est un gros con. Il y a trois négligences fondamentales. Mais il était tard dans la soirée. Dans quel état ils étaient? Ils ont pas justement, c'est parce qu'ils avaient pas l'habitude de manipuler les armes et qu'ils avaient pas été dans des stands de tir, sûrement, où on leur avait donné toutes les consignes de sécurité, où un tireur sportif va jamais faire ça. On ne dirige jamais un canon vers
un tireur sportif. Il a une licence. Il a une professionnel. Licence. Il a un port d'armes.
Nora,
visiblement pas le cas.
Je voudrais quand même poser quelque chose qu'on n'a pas posé depuis tout à l'heure, puisque du coup je rebondis sur ce que disait Christophe sur la question qui se pose, c'est pourquoi fuit-il la commune. Non mais en fait pourquoi vous vous rendez compte du nombre de journalistes qui sont sur place à tendre le micro? Pourquoi jeter l'opprobre comme ça sur une communauté? Ils auraient donc quelque chose à cacher. C'est pour ça, en fait, que 80, d'un seul coup, il n'y a plus personne. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que cette communauté est en train de subir en ce moment?
C'est pour ça que faire bloc me semblait le meilleur réflexe, mais
surtout pas sur place, pardon. Mais c'est peut-être logique, en fait, à un moment, de protéger les siens, de protéger les enfants, de protéger les familles, de cette nuée, en fait, qui est en train de débarquer, qui pose le micro, et vous en pensez quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi vous avez des armes? Et est-ce que vous vous rendez compte aussi de ce que la communauté des gens du voyage subit depuis cette annonce comme le relent de xénophobie pure depuis quelques jours?
Non mais pas tant que ça. Vous n'êtes ni sur Twitter ni sur Instagram. Les réseaux sociaux sont pas le baromètre de ce que pensent les Français. Je peux vous dire que quand ils voient Kenji Girac, chanteur à succès, quand ils voient son entourage qui vivent bien, sont des gens qui sont intégrés avec leur mode de vie. On n'est pas chez les Romanichel, on n'est pas dans les bijoux de la Castafiore de Tintin.
Comment ça, on n'est pas chez les Romanichel? Mais rien que cette phrase ne va pas.
Non, mais Christophe,
bien sûr, vous ne pouvez pas dire ça. Mais rien ne va.
Mais c'est le climat.
On n'est pas chez les Romanichel.
C'est là
que justement on est dans quelque chose qui est en train d'alimenter des clichés d'une communauté en fait qui joue avec les armes et qui devrait pas, parce que les armes quand même c'est pour les professionnels. Enfin,
mais attention. J'aurais dit des Corses aussi, vous savez, ils sont pas.
Attention,
les armes c'est pour les professionnels.
Je pose le.
C'est Joseph Gauthier qui a dit on aime les armes.
Attention de ne pas glisser en termes de sémantique sur cette communauté qui déjà subit beaucoup.
C'est pour ça qu'il faut pas regarder les réseaux sociaux, mais regardez comment les gens raisonnent. Ils sont parfaitement solidaires.
Le reste de la communauté des gens du voyage, en termes de xénophobie et de discrimination, on pourrait en parler encore pendant des heures.
Visiblement pas là, à Biscarrosse.
Question un peu naïve, mais est-ce que quand il se passe quelque chose comme ça, on ne gèle pas la scène? Est-ce qu'on laisse tout le monde partir comme ça?
On voit bien que rien ne va dans cette histoire depuis le début, puisque à 5h40, la famille appelle les pompiers. Heureusement qu'ils appellent les pompiers en urgence, parce qu'il est dans un état grave. Il a quand même failli y passer, franchement. Et puis, finalement, une heure plus tard, les pompiers, se rendant bien compte qu'ils ont certainement affaire à une arme à feu, préviennent les gendarmes.
Ils ont obligation. Dès l'instant où s'il y a quelqu'un arrive à un hôpital blessé par arme à feu, il y a obligation de prévenir les forces de police.
Alors, il y a quand même une heure. Encore une heure s'est écoulée. Donc c'est vrai que les gendarmes arrivent, il doit être, Maxime, 6h40, un peu avant 7h. Il y a 80 caravanes. C'est vrai qu'il aurait fallu d'abord retrouver le projectile. Parce que le projectile permettrait de dire quelle arme exactement a tiré.
Encore une fois, on n'a pas l'information s'ils l'ont ou pas.
Alors, ils l'ont peut-être.
On ne sait pas tout ce qu'il y a dans l'enquête.
C'est vrai. Oui. Et puis l'étui. Parce que c'est vrai que l'enquête dans l'enquête à terme, c'est de voir si cette arme, parce que chaque arme a sa propre signature. En fait, chaque arme a dans son calibre, un peu comme son ADN, disons, c'est-à-dire la signature de son...
Il y a la balle qui part, et puis il y a la douille qui est éjectée, qui contenait la poudre. Ça, et celle-là, si on la retrouve, d'abord, elle permet aussi d'identifier l'arme, parce qu'il y a une percussion, et là, les laboratoires vont exactement savoir. Et puis, on peut localiser exactement le lieu du tir.
Mais d'où ma question,
justement, sur cette question, sur le besoin de geler la scène, il faut quand même... Alors certes, il faut, dans le contexte, le procureur dit que au début, les propos étaient confus et que visiblement les gendarmes ont eu du mal à avoir des explications sur les circonstances. Mais il faut aussi dire que il y a des techniciens de l'identification criminelle qui ont pu se déplacer sur place, qui a bien, d'après nos informations, des expertises, des relevés qui ont été faits, et donc il y a un travail technique scientifique sur la zone qui a effectivement été fait.
Disons tard, Maxime. Par la force des choses, de l'appel, de l'arrivée, et puis de la façon dont ça s'est mis en route assez tardivement, mais que c'est vrai que le procureur a fini par estimer que toutes les données en sa disposition étaient à la confusion. Et comme c'était à la confusion, il a quand même ouvert. C'est quand même tentative d'homicide volontaire. Mm-hmm. C'est une qualification pénale.
Il y aurait pu avoir une grave. Autre qualification d'ailleurs.
Il y avait d'autres possibilités. Bah, le procureur ouvre au plus haut possible. Et c'est ce qui se fait habituellement d'ailleurs. Tous les procureurs, lorsqu'ils ont un doute, ils ouvrent au plus haut parce qu'ils ont les mains les plus libres ensuite pour enquêter. Mais il y aurait pu avoir d'autres qualifications.
Ça aurait pu être des
violences involontaires s'ils avaient totalement exclu la thèse de l'homicide et qu'ils s'étaient dit soit il se tire dessus tout seul, soit c'est quelqu'un qui lui a tiré dessus sans faire exprès. Ça aurait pu être des violences involontaires. Si dès le départ ils étaient persuadés aujourd'hui que Kendji Girac s'était tiré dessus tout seul, là il y aurait même pas d'enquête parce que vous savez que vous vous suicidez ou que sans faire exprès vous tiriez dessus, il n'y a pas d'infraction pour ça.
Et c'est vrai que ce qui les intrigue, c'est d'avoir eu l'arme à retardement. Parce que l'arme, elle a sa signature. Et donc, c'est ce qu'ils vont faire en priorité. C'est d'ailleurs ce qu'ils font tout le temps. Il y a un fichier des armes répertoriées dans d'éventuelles affaires criminelles. Et donc, ce fichier des gendarmes et des policiers va dire si l'arme remise aux gendarmes là, elle a une histoire déjà criminelle. Et après tout, peut-être que cette arme, elle a servi... Peut-être pas, mais peut-être que cette arme, elle a servi dans des affaires et que sa signature va sortir dans les fichiers de la police. Autrement dit, ça ouvre tout ça des perspectives potentielles.
Elle a pu être déclarée, avant déclarée, il y a de fortes chances qu'elle provienne de la guerre et qu'elle n'ait jamais été déclarée, mais elle a pu aussi être déclarée et provenir d'un cambriolage. Donc tout ça, ils vont pouvoir le savoir.
Est-ce que, juste d'un mot, l'hypothèse de se l'être procurée dans une brocante, ça vous y croyez, c'est possible ?
C'est plausible parce que un brocanteur vit d'une maison. Le grand-père était résistant. Elle est dans un tiroir. Il y a des armes qui sont restées chargées pendant 40 ans dans le tiroir du grand-père parce qu'il avait fait la libération. Et nous à l'armurerie, on nous rapporte tous les ans des armes. On a deux ou trois qui nous arrivent chargées en plein Paris et qu'on nous apporte. Elles sont toujours restées chargées.
Il faut peut-être dire aussi pour conclure. Finalement, on voit bien. On se demande comment il a fait pour se tirer dessus tout seul, pourquoi l'arme a disparu, comment a-t-il obtenu l'arme, comment l'a-t-il achetée. Ce qu'on voit bien, c'est que surtout là, ce qui est grandement attendu dans l'enquête, c'est l'audition de Kendji Girac qui sera faite dès qu'il sera en état de parler. Et là, même s'il maintient la même version, il aura beaucoup d'explications à fournir sur tout ce qui s'est passé. Et peut-être qu'on y verra beaucoup plus clair à la fin.
Est-ce qu'on peut faire un dernier point pour les téléspectateurs qui nous rejoignent sur les toutes dernières informations
Les toutes dernières informations, c'est que les premiers éléments qu'on a pu avoir à la fois sur les auditions et notamment les quelques expertises qui sont revenues, pour rappel, il y a encore beaucoup d'expertises internes, mais les premiers éléments ne contredisent pas la version de Kendji Girac, qui, on le rappelle, sans avoir été auditionné, a expliqué aux enquêteurs qu'il avait manipulé l'arme en début de matinée, fin de nuit, et qu'il s'est tiré dessus sans faire exprès.
Merci beaucoup. Paulo Lévy.
Mais non, je voulais conclure. Il y a une chose qu'il faut absolument dire sur ce débat. C'est un message d'espoir positif à Kenji Girac. Tout d'abord, lui souhaiter un prompt rétablissement et surtout lui rappeler l'histoire magnifique d'un autre grand musicien gitan qui s'appelait Django Reinhardt, lui-même victime d'un grand accident très grave à Saint-Ouen, brûlé dans sa roulotte. Il perd un doigt, il guérit et il se retrouve sans un doigt. Et c'est grâce à cette limite d'avoir un doigt en moins qu'il invente le jazz manouche, donc il passe à l'histoire de la musique. Donc
il
fait de cette limite sa planche de salut, et c'est grâce à ce doigt en moins si aujourd'hui on parle encore tous de lui. Donc tous les souhaits de pauvres
et d'amis. Il ne
faut pas se tirer dessus quand même en espérant avoir un grand destin.
Non, bien sûr, mais...
Un trou dans le poumon ne donne pas d'esprit musical jusqu'à présent.
Mais visiblement, ses capacités de chanteur, ses capacités vocales ne seraient pas touchées. C'est quand même la bonne nouvelle. Vous connaissiez, vous, en tant que... Vous êtes italien qui vit en France, donc vous connaissiez, vous n'êtes pas passé
bien
à côté.
Bien sûr que oui, et je suis tout autant passionné par Django Reinhardt, et je sais que parfois, quand on a des blessures, ça peut aussi devenir une planche force de salut pour faire encore mieux. Et c'était le cas aussi même d'un grand footballeur italien, Roberto Baggio. Il a été opéré d'une jambe au début de sa carrière. Il avait une jambe légèrement plus courte que l'autre, et c'est grâce à cette jambe plus courte que l'autre qu'il a été un champion unique.
On aime bien ces messages positifs.
Il a quand même manqué un pénalty en finale de la Coupe du Monde.
Allez, merci beaucoup Laurent Valdiguet, Maxime Brandstetter.